Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, malgré un pacifisme proverbial et une absence assez générale de muscles, aime quand même bien qu'on soit castagne, en tout cas au cinéma. Inutile de vous rappeler la place de choix qu'occupe dans nos petits cœurs de cinéphiles la saga Rocky, à laquelle nous portons un amour des plus virulents, qui cependant ne s'accompagne pas d'un aveuglement total, en tout cas pas suffisant pour qu'on passe sur les défauts évidents du très très balourd Creed, qui avait l'ambition de relancer la machine que nous avions copieusement détesté à sa sortie. Creed 2, sa suite, arrive sur les écrans. Est-ce qu'elle signera notre réconciliation? On va voir ça avec mon trio de sparring partners préférés, Réminitiel, Antenne Paris, Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut.
Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné, épisode 169, et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Perrine faisait signe de son agacement pendant mon introduction. Tu pourras parler après, Perrine, ne t'inquiète pas. Creed 2 met donc toujours en scène le boxeur Adonis Creed, alias Michael B. Jordan, le fils d'Apollo Creed, le défunt copain de ce bon vieux Rocky Balboa, toujours évidemment incarné par Sylvester Stallone. Adonis qui se retrouve rattrapé par son passé puisqu'il s'apprête à affronter dans un combat ultra médiatisé Victor Drago, qui n'est autre que le fils du terrible Ivan Drago, dont Dolph Lundgren reprend le rôle. Ivan Drago, qui, je le précise pour ceux qui débarquent, n'est autre que le boxeur qui, en 85, a tué sur le ring Papa Apollo dans l'inoubliable Rocky 4.
We got this. You hear me?
In the ring, you got rules. Outside, you got nothing. Life hits you with all these cheap shots. People like me, we live in the past. You got people that need you now. You got everything to lose. This guy's got nothing to lose.
I ain't got a choice.
That's the same thing your father said, and he died right here in my hands. Listen to me, this guy is dangerous.
But you don't think I could beat him?
Derrière la caméra, c'est Steven Caple Jr. Au casting, outre les précités, on trouve Tessa Thompson, Ficilia Rashad et Emilio Ventimiglia qui reprend son rôle de Bobby Balboa, le fiston de Rocky. Votre avis sur ce Creed 2, les amis? Tu veux que je donne la parole à Julien? Perrine, tu fais signe. Ben oui, c'est la tradition. C'est la tradition de cette émission. Quand Julien est autour de la table, c'est lui qui commence.
Puisque tout le monde insiste.
Oui.
Alors, j'ai un problème avec ce film. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une très belle histoire, en fait, de fils dressé au point par son papa, par un papa déchu, en fait, qui est honni de tous, etc. Parce que c'est ça aussi, Rocky. Enfin, je sais pas, il me semble, la valeur de Rocky, c'est l'histoire de l'underdog ultime, quoi.
Bien sûr.
Et donc voilà, donc il y a cette très belle histoire avec ce gamin qui est brut de décoffrage et tu sens qu'il a un rapport difficile avec son papa parce qu'il a été abandonné avec sa maman, etc. Et il va essayer d'affronter un gars qui a tout par contre et qui va essayer de le vaincre. Mais il va perdre. Je spoil, hein, je préviens.
Putain, tu peux spoiler.
Je préviens, je vais spoiler après avoir spoilé. Mais bon, bref,
c'est pas mal.
Je suis désolé, les gars. Donc il va perdre. Mais dans ce combat, puisque comme on le sait, c'est le chemin qui est important, ce n'est pas la destination. Et bien, au cours de ce chemin, il aura réussi à susciter l'empathie de son paternel. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors le problème, c'est que ça, c'est l'histoire que je viens de raconter, l'histoire du méchant.
De
en
Victor
gros.
Drago, voilà.
Le héros. Malheureusement de Creed, c'est Adonis Creed qui lui alors par contre est un sale gosse gâté en fait, qui a à peu près tout, hein, qui est très bien entouré, il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup en fait autour de lui, il a beaucoup d'argent et il a tout pour lui en fait et alors, il fait que des conneries, mais alors, c'est un ballot de première, il fait bêtise sur bêtise sur bêtise, mais alors, tous les autres qui sont autour de lui puis disent mais non mais c'est pas grave, allez, vas-y retourne, alors il y retourne puis il refait une bêtise, mais il y a les autres qui reviennent quand même et tout, donc moi j'ai absolument aucune empathie pour ce personnage là, quoi, combien même il est un peu triste parce qu'il se souvient que son papa avait été tué, tout ça. Puis il y a sa maman qui, des fois, quand même, lui dit, lui menace de lui donner une petite fessée parce que c'est quand même pas bien et tout. Mais j'ai aucune empathie pour ce personnage-là. Mmh. Le problème, c'est que c'est quand même celui qui occupe la majeure partie de l'écran, enfin du temps, qui a une majeure temps de présence à l'écran, j'y arrivais. Et puis voilà quoi. Je du coup il y a des petits restes de Stallone en fait dedans, mais qui moi m'ont alors autant moi j'ai c'était un des trucs que j'aimais bien dans le premier cri, enfin j'aimais bien, c'était pas à la mesure de ce que ça aurait dû être, mais c'était quand même chouette de voir Stallone et tout là-dedans. Là, pour moi, Stallone, c'est un peu un problème, quoi. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à défendre, déjà, dans le film. On en parlait avec Stéphane en sortant. Il a pris quand même un coup de vieux. Enfin, je ne sais pas si c'est un problème de savoir le filmer aussi, peut-être, etc. Mais physiquement, c'est très ingrat. Enfin, on parlera dans quelques semaines de La Mule, en fait, de Clint Eastwood, qu'on a vu récemment. Là, Clint Eastwood, il est très vieux, hein, dans le film. Très vieux, il a la peau du cou qui pend et tout, mais il est magnifique quand même, quoi. Là, ce n'est pas le cas, quoi. Stallone, il n'est pas... Enfin, moi, je trouve. Hein. Ce n'est pas que c'est un délit de sale gueule, c'est que ça m'a...
On dirait sa mère. Hein.
C'est ouais, c'est quand même un problème pour le recevoir, c'est-à-dire que t'as du mal à le retrouver beau et magnifique, et puis en plus sur les métaphores qui sont pas très fines, etc. Bon voilà, en tout cas ça rattrape pas le reste en fait, ouais. et ce souci de base. Alors ceci étant dit, je reviens à mes trucs positifs parce que je veux vous quitter sur un truc positif. Cette histoire de Drago et son fils est de façon d'ailleurs assez inespérée, plutôt finalement touchante et sympathique. Et puis Dolph Lundgren, il est pas mal quoi dedans. Bon, il fait pas énormément de choses, mais il est là, il est présent, il assume pour le coup plutôt très bien son âge, je trouve. Et puis c'est sympa. Ça c'est sympa. Ce n'est pas le film.
Mais ce n'est pas voilà. Tout. Périne.
Non, c'est ce que j'allais dire sur le fait que c'est vrai que si Sylvester souffre un peu physiquement, Dolph en contrepartie en face est plutôt bon, il va en bas mal quoi. Il est bien conserve quoi. Donc mais je suis tout à fait d'accord avec Julien sur le fait que le problème. Ah oui, alors je reviens juste pourquoi j'ai faisais la tronche pendant ton intro.
Pendant mon intro, ouais. Toi, t'as beaucoup aimé Creed.
Ben moi, j'aime beaucoup Creed, donc c'est vrai je n'étais pas là à l'époque de votre visiblement massacre.
T'aimes pas beaucoup Rocky, par contre.
Mais si, j'aime beaucoup Rocky, donc. Eh ben oui, tout est possible.
Peut pas
les deux.
Que des défauts. Hein.
Et non,
je sais pas comment on peut faire les deux, en fait. Mais c'est ça, surtout.
Si on peut. Voilà, on peut. Tout est possible.
Fin de la parenthèse.
Mais je savais.
Tu savais que tu étais là pour me provoquer.
Voilà.
Dorf, ta gueule à la récré. Mais donc, en soi, donc c'est vrai que ce qui est le plus intéressant, le plus fort, le plus pertinent presque dans le film, c'est cette relation des Drago en fait, c'est de Ivan et de Victor. Et il y a quelque chose d'hyper touchant, mais c'est vrai que tout le film, en même temps, tout le sujet du film, c'est l'héritage. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle en français, c'est l'héritage ou je sais pas trop quoi. Mais en effet, toute cette histoire, c'est qu'est-ce qu'on garde de nos pères, qu'est-ce qu'on garde de la douleur de nos pères, qu'est-ce qu'on nous a transmis et qu'est-ce qu'on doit à nos pères en fait. À quel moment, enfin l'occurrence là les pères puisque c'est le père mort Apollo et le père déchu Ivan. Donc qu'est-ce qu'on leur doit? Est-ce que c'est au fils de reprendre la bataille? Est-ce que c'est au fils de refaire la même chose? Donc c'est ça que je trouve finalement assez pertinent. Alors c'est vrai que ça rend finalement Victor plus attachant parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, il avait raison Julien sur les underdogs, donc on est un petit peu genre c'est vrai, c'est pas de bol, tout a été déchu, il a une vie difficile, sa maman l'a abandonné, tout ça, c'est quand même vraiment pas de bol, donc on a plus d'attachement pour lui, mais c'est vrai qu'en même temps je trouve que le rôle qui est donné à Adonis c'est pas simple, c'est-à-dire que clairement il avait tout prouvé dans Creed, il a fait son parcours, il est arrivé jusqu'au top, et donc de partir du top, personne n'aime les gagnants, donc à partir de ce moment-là on s'ennuie presque un peu avec lui, mais le fait qu'il soit en remise en question permanente, qu'il au bout d'un moment se croit devoir un combat vis-à-vis de la mémoire de son père, ce qui n'est pas le cas, je trouve que finalement son combat intérieur, même s'il est chiant, même s'il casse un petit peu les pieds, même si lui on a envie de le taper un petit peu, et il y a une forme de logique parce que le film se déroule de manière très très attendue, il n'y a pas beaucoup de surprise dans le film, je dirais qu'il y a vraiment un déroulé très très classique, on peut à peu prévoir tout ce qui va se passer, mais j'ai un tel attachement pour ces deux fils qui sont obligés de reprendre un combat d'il y a plus de 30 ans qui moi a vraiment fonctionné pour moi, et là où par contre ça pêche un petit peu, c'est justement que donc il y a cette histoire d'héritage, et derrière on a Rocky. et Rocky, le rapport à son fils, c'est compliqué. Déjà, c'était compliqué dans Rocky, c'est compliqué dans Creed. Et dans Creed 2, c'est littéralement la fin du film, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, clairement, il y a une espèce, encore une fois, de rattrapage de wagon qui fonctionne pas pour moi. J'ai l'impression que le film se termine en This Is Us, quoi. Ça se barre directement dans la série This Is Us. On a quitté l'univers de Rocky. Et c'est vrai que tout le long, Stallone n'est pas vraiment là, mais c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant, c'est que d'un seul coup, clairement, il y a un passage de clé, il y a un passage de relais, c'est plutôt ça qu'on dit, je crois, il y a un passage de relais que je trouve intéressant. Le film a fini de transmettre le relais à Creed, et on nous explique que Rocky, c'est quelque chose qui est digéré, qui est avalé. Ça se voit avec l'une des scènes du début du film où Ivan Drago et Victor Drago débarquent à Philadelphie. Il y a la statue de Rocky, il y a des gens qui courent les marches et qui font comme Rocky en haut des marches. En fait, clairement, on nous expliquait que Rocky, c'est digéré, c'est avalé, c'est de la pop culture, c'est rentré c'est rentré définitivement, en fait. Et donc, on va plus rejouer cette mythologie en permanence. Elle est là, elle est acquise, elle est faite. Maintenant, on joue sur une autre mythologie, on est en train de créer une autre mythologie. Est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle marche pas, ça, c'est une autre question. Mais on essaie de recréer en tout cas quelque chose et de passer à un autre personnage. Rocky, on a fini. Et je trouve que c'est intéressant. Et le fait de rentrer au foyer, de rentrer voir son fils, c'est aussi une manière de mettre un point à tout ça. Donc je trouve qu'il y a quelque chose où c'est un peu osé de dire à un moment donné, bah, voilà, au fond, Rocky, c'est ce qui vous intéresse. Mais là, on met un point, on transmet à quelqu'un d'autre. Et on est encore dans cette histoire de transmission. Ce qui, pour moi, est vraiment le point le plus fort et le plus intéressant du film, avec quelques défauts qu'ils ont, notamment Tessa Thompson, qui force le personnage de Tessa Thompson de manière absolument lourde. Ce qui n'est pas juste pour elle, d'une certaine façon. Mais à part quelques défauts, il y a des idées, il y a quelques idées de mise en scène, il y a quelques idées scénaristiques. Mais surtout, il y a des personnages qui sont forts et une très très belle relation chez Drago.
Stéphane.
On devait faire une émission sur Rocky qu'on n'a pas faite finalement, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps, qu'on fera peut-être, je ne sais pas, un jour.
On la fera,
voilà. Et, c'est promis. Mais du coup, je spoilais un minimum mon approche du truc, c'est que pour moi, en fait, la saga Rocky, pour moi, je pense de manière générale, c'est ce que c'est la vie de Stallone. C'est-à-dire que quand Rocky 3, Rocky 4 sortaient, on se foutait de sa gueule parce que c'était des suites. Et on disait, mais ils vont faire combien, tu vois? Sauf qu'à la fin, en fait, c'est un personnage qui est là depuis 40 ans dans sa vie et qui est son alter ego à l'écran et qui surtout, en fait, s'inspire énormément de sa propre vie à lui. Donc, il y a un auteur derrière tous les Rocky. Et là, je parle vraiment de tous les Rocky, pas Creed. Et c'est Stallone. Et l'auteur de Creed, je sais pas qui c'est. Et l'auteur de Creed 2, je sais encore moins qui c'est, parce que le problème, c'est que la personne qui a initié Creed à l'époque, Ryan Coogler, s'est barré. Oui.
Il a la prod.
Enfin, il est producteur exécutif.
Il est prod, il a rien foutu sur le film, voilà. ça se voit, quoi. Et le truc, c'est que. Et le problème, en fait, de ce film-là, c'est que du coup, il réappartient à qui? Parce qu'on dit qu'il y a Stallone, effectivement, à l'écran, qui joue pas grand-chose, qui a pas grand-chose à défendre, et qui joue Rocky un peu comme un passage obligé. C'est-à-dire que dès la première apparition, il arrive, il assène une leçon de vie, et t'as envie de dire, faites-le exister, parce que c'est pas parce qu'il y a 7 films avant qu'on peut pas le faire un peu exister. Oui. Les mecs, ils te traitent le cancer, parce que c'était quand même un événement majeur, hein, dans Creed, mais en une ligne de dialogue, c'est fini. Bon, il a plus le cancer, il a plus rien, tout est bon, il est en rémission, c'est réglé. Donc il y a plus vraiment d'enjeu non plus là-dessus, même si moi je trouve que c'était un enjeu assez pauvre, en fait, dans
moi,
Creed.
C'était un enjeu.
Voilà. Mais il y a Stallone derrière le scénar, en fait, et c'est à la fois l'un des problèmes. Et l'une des, je pense, micro-réussites éventuelles de certains passages du film. Stallone s'est toujours inspiré de sa propre vie pour incarner. Incarner dans le pire et dans le meilleur. Hein, pour incarner, parce que incarner cette saga, y compris en Rocky Balboa. Et pour moi, ça se terminait là, en fait, à la base. Hein, c'était vraiment là qu'il fallait terminer, pour lui aussi, jusqu'à ce qu'on vienne le chercher pour lui demander de s'inscrire dans sa propre saga, tout en créant quelque chose, tout en s'inscrivant quand même dans sa propre saga. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec l'idée que ça soit qu'une question de transmission, parce que à la fin, les mecs reprennent malgré tout la musique de Rocky, les scènes de Rocky, et tout ce que le traverse Adonis, c'est ce qu'a traversé Stallone dans Rocky 3, L'œil du tigre. Et c'est pas forcément le meilleur film, hein, mais c'est juste les mêmes problématiques, quoi. Le souci, c'est qu'il y a un événement majeur qui s'est passé dans la vie de Stallone ces dernières années, un drame énorme et que pour la, j'ai l'impression pour la première fois en tout cas dans sa carrière artistique, il le gère pas en fait. Et c'est la mort de son fils Sage. Alors c'était très étonnant de le voir en fait, la façon dont il abordait, comment dire, quand il abordait ça publiquement, parce que deux semaines après le drame, il est retourné faire de la promo pour c'était Expendables 2 à l'époque, ce genre de choses. Je pense que il suffit de lire entre les lignes de Rocky 5 et Rocky Balboa. Rocky 5 d'autant plus que c'est son fils, qui c'était Sage qui jouait le rôle, et Rocky Balboa, pour voir qu'ils avaient quand même des rapports un peu
compliqués
quoi, parce que quand tu regardes la scène que j'adore, hein, qui est une scène magnifique dans Rocky Balboa où Stallone, enfin son fils vient le voir et lui dit tu peux pas faire ça, tu peux pas reprendre le remonter sur le ring, tout le monde va se foutre de ta gueule et moi avec, parce que je m'appelle Balboa comme toi, et que Rocky lui explique que tu dois pas te laisser faire, tu dois pas écouter ce que les gens te disent, ce qui est une scène moi je trouve magnifique. Si tu la prends de manière inversée, si tu la prends pas du point de vue justement de Rocky, si tu la prends du point de vue du fils, bah là tu comprends qu'il y a quand même un gros problème entre eux quoi. Et le fait qu'il soit pas du tout dans Creed, le fils, mais littéralement pas du tout dans Creed, juste pour artificiellement, moi je trouve, créer la relation père-fils entre Balboa et Adonis Creed, bah déjà c'était un problème. Là c'est d'autant plus un problème que effectivement il le traite, comme l'a dit Perrine, en un truc à la fin, une seconde. Je pense par contre que là où ça se retrouve vraiment, et de façon totalement larvée, c'est justement dans la relation entre Drago et son fils. Et je pense que, parce que le vrai truc touchant, c'est dans la scène finale, c'est quand il lui jette l'éponge, en fait, quand il fait arrêter ce combat, parce qu'il veut pas que son fils soit une humiliation comme lui il l'a été pendant 30 ans. Et je pense que c'est à travers ça en fait que Stallone part de sa propre relation avec son fils, et en fait qu'il fait plus ou moins amende honorable vis-à-vis de son fils, mais t'as l'impression qu'il peut pas le faire en étant presque lui-même quoi, et t'as l'impression qu'il a besoin de le faire à travers un autre personnage. Parce que ça, c'est évident que c'est écrit par Stallone, ce genre de truc quoi, et c'est quasi inespéré dans l'absolu, parce que faut quand même dire un truc qui est vrai, je pense que c'est Creed 2, c'est quand même la suite des deux pires Rocky quoi, c'est-à-dire Creed et Rocky 4 quoi, qui est quand même pas un bon film quoi à la base. Et le personnage de Drago, il n'existe pas en fait, c'est juste une machine à tuer, dans il est là pour buter Creed et se faire ramasser la gueule par Rocky quoi. Donc c'est assez inespéré que ça fonctionne effectivement dans le film. C'est limite un court-métrage hein. Tu prends ça, c'est 15 minutes. Il y a un gros acte manqué moi je trouve en fait, et c'est là où tu vois que c'est parce que c'est pas, encore une fois, pas géré par Stallone pour le coup, parce que c'est lui, c'est pas son idée en fait. C'est le caméo de Brigitte Nielsen, qui est son ex-femme dans la vie, et qui était donc l'ex-femme de Drago dans Rocky 4, et c'est pas traité en fait, c'est-à-dire que c'est une apparition qui en fait fondamentalement on lui donne rien à jouer en fait, elle est juste, juste à être là, à représenter une espèce d'icône, et à représenter en fait le camp adverse, on va dire entre guillemets, de ce dont Drago et son fils en fait, contre lesquels en fait ils ont besoin de démontrer quelque chose, pardon. Et voilà, et donc t'avais tout ce truc à jouer autour de ça, et pour moi tout le reste c'est même plus que balisé, c'est carrément comment dire, by the book, Rocky 3, Rocky 2, etc. Et bon, Stallone a toujours plus ou moins fait ça aussi, ça lui arrivait, hein. Il y a des épisodes moins bons que d'autres, quoi. Mais à ce point de non-incarnation, que lui s'arrête, parce qu'apparemment c'est le dernier film où il joue Rocky, mais bon, ça, après, il avait dit ça à l'époque de Balboa, puis il avait dit ça aussi avec Rambo, et finalement il vient de tourner Rambo 5, on sait jamais vraiment avec lui, quoi. Bah, c'est dommage, en fait, de boucler le truc sur ça, et de quasiment pas traiter fondamentalement le personnage, mais en même temps, j'ai envie de dire, il faut s'arrêter là, mais on sait déjà qu'il y aura Creed 3 ou 4, ou je sais pas quoi, tu vois, donc la seule question, c'est comment ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont raconter ? Parce que fondamentalement, là, ils parlaient de Creed, mais de Creed, de Rocky, tu vois, dans le premier. Et là, ils parlent de Drago. Donc, il leur reste quoi pour accrocher les wagons, tu vois ? Et là, à mon avis, quand il n'y aura plus Stallone, quand il n'y aura plus tout ça, bah, on verra que c'est quand même une mythologie bien rapportée. Moi, à mon avis, c'est de la grosse flûte. Donc, voilà, quoi. C'est bah, ouais, mais enfin,
je veux dire. Il lève les yeux au ciel. Mais non,
c'est des films à papa, quoi. Tu vois, c'est des films pour. C'était pas ça, Rocky, justement. Moi, je pense pas que c'était ça. Hein. C'est-à-dire que, justement, c'était l'histoire d'un père avec son fils et non pas d'un fils avec son père. Tu vois, même Rocky 5, tu vois. Donc, à partir de là, je trouve ça un peu dommage. Enfin, je trouve l'inversion en hyper-rechange, quoi. Voilà.
Pour terminer, chers camarades, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations, pas forcément dans l'univers des films de boxe, hein, c'est pas obligé. Vous savez que vous êtes totalement, totalement libre. Julien Dupuis est excusé, il nous a quitté pour aller rejoindre une projection d'un film dont on parlera très prochainement, certainement, dans nos ciné. Perrine, tu commences ?
Oui.
Bonjour.
Non, c'est vrai que c'était pas évident, mais je me suis attardée sur Michael B. Jordan.
Oui.
Parce que je continue à penser que j'aime beaucoup ce garçon. Et j'ai envie de rester dans l'univers du sport. Donc Creed 1, non, le de Friday Night Lights, qui est une série qui a révélé notamment Michael B. Jordan. Il avait l'un des rôles principaux de la série, qui n'est pas du tout sur la boxe, mais sur le football américain.
Tout à fait.
Donc, et qui est une excellente série, et aussi un film d'ailleurs. Mais si vous avez l'occasion de le voir, c'est absolument superbe. Il y a pas mal de saisons, mais ça dit beaucoup de choses d'une certaine Amérique et d'une fascination pour un sport. Et Michael B. Jordan reste charmant sportif du cinéma et de la série. J'arrête sur mes compliments sur Michael B. Jordan, c'est-à-dire gênant pour tout le monde.
Non, pas du tout. On était bien, on était très bien.
Ça pouvait durer longtemps.
Ok. Stéphane, je crois savoir ce que tu vas recommander.
Brigitte Nielsen. Ouais. Tu vois, elle est dans Creed 2. Ouais. Brigitte Nielsen, tu fais le rapport, elle était dans Cobra.
Ouais.
Avec Stallone, tu vois.
Ouais. Et
dans lequel, lequel Stallone jouait un flic qui s'appelait Marion Cobretti.
Ouais.
Dit Cobra, donc.
Oui, Cobra.
Donc moi, quand j'ai vu arriver Anaconda, j'ai cru que c'était la suite de Cobra à la base. Tu vois, je me suis dit, c'est
le Cobra, l'Anaconda.
Anacondretti, tu vois. Je me suis exactement dit ça. Et en fait, pas du tout. Quelle était ma déception première, tu vois, quand j'ai vu l'affiche, tout, parce que je croyais que c'était la crosse de, tu vois, l'affiche de Anaconda. Ouais. Je croyais que c'était la crosse du flingue aussi, tu vois. Non, pas du tout. Mais finalement, bon, bah, tu vois, j'ai fini par voir le film, et quand même un classique incontournable.
Bien sûr.
Donc on peut pas bouder son plaisir, on peut pas nier en fait les choses.
Et
bouser son
pépère. Je me suis repris, j'ai dit au plaisir.
Bouder son pépère.
Mais
tu tiendras pas un an avec ça.
Si.
Un an, alors, 6 mois, il me reste 6 mois à tirer. C'est
tout. Il a dit jusqu'à juin avec Anaconda.
Voilà, attends, fin de saison, quoi. Tu vois.
Tout à fait.
Et donc, Anaconda, pareil, un très beau film d'amour, d'espoir, de relations filiales aussi, entre un anaconda et son fils. et voilà, donc je vous conseille Anaconda. Luis Loza qui a aussi réalisé un autre film avec Stallone qui s'appelait L'Expert, qui est un film assez étrange parce que c'est quand même le film où Stallone il est plus bonne que Sharon Stone.
Ah.
Donc faut le faire quand même, quoi. Voilà. Mais c'était moins bien qu'Anaconda quand même. Ça n'a pas gagné tous les mêmes Oscars.
Il n'y avait pas John Voight.
Mais John Voight, je me le garde pour les autres.
Ah oui, c'est vrai, c'est pour les autres coups. Pardon, excusez-moi, notre temps est écoulé. Merci à tous les deux et à Julien Dupuis, donc, qui nous a quittés entre temps. Merci à Quentin, à la Technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines. Et puis on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.